الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous allons évoquer aujourd'hui, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, la construction de l'arche d'alliance, qu'on appelle en arabe Qubbatu Zaman. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala, a dit: les gens du livre disent qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, ordonna à Moussa, alayhi salat wa salam, de construire un dôme fait de bois d'acacia, de peau et de poils de bétail, et de l'orner de soie teintée, d'or et d'argent, d'une manière qu'ils ont détaillée dans leur livre. Ce dôme devait comporter 10 tentures d'une longueur de 18 coudées et d'une largeur de 4 coudées chacune, 4 portes, des câbles de soie et du brocart teinté. On y trouvait des étagères et des panneaux d'or et d'argent. Chaque côté comportait 2 portes principales et d'autres grandes portes, des tentures de soie teintées et bien d'autres choses qu'il serait trop long d'évoquer. Il lui ordonna également de fabriquer un sarcophage en bois d'acacia, ce qu'on appelle en arabe at-tabout, d'une longueur de 2 coudées et demie, d'une largeur de 2 coudées et d'une hauteur d'une coudée et demie, recouvert à l'intérieur et à l'extérieur d'or massif avec des poignées aux 4 coins, et que sur ses 2 extrémités soient dessinés 2 anges se faisant face. C'est un homme se nommant Basliyal qui le réalisa. Il lui ordonna de fabriquer aussi une table en bois d'acacia d'une longueur de 2 coudées, d'une largeur de 2 coudées et demie, recouverte d'or, ayant une poignée d'or aux 4 côtés, un ornement en forme de grenade gravé dans le bois et laqué d'or, et d'autres descriptions qu'a cité l'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. De même, il lui a demandé aussi de fabriquer des ustensiles à placer sur la table. Il lui ordonna aussi de fabriquer un chandelier en or, duquel naissaient 6 branches en or, 3 de chaque côté, et sur chaque branche, 3 flambeaux, et 4 bougies sur le chandelier. Et que ce chandelier et tous les ustensiles de la table soient en or. Ce dôme, Qubbatu Zaman, l'arche d'alliance, ce dôme fut élevé le premier jour de leur calendrier, c'est-à-dire des enfants d'Israël, le premier jour du printemps. De même que le coffre, At-Tabut, auquel il est fait référence, et Allah est plus savant dans sa parole, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabut fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu al-mala'ika inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin. Sourate Al-Baqarah, verset 248. Leur prophète leur dit: le signe de sa royauté sera que le coffre vous parviendra, c'est-à-dire At-Tabut ici. Il contient une quiétude venant de votre Seigneur et les reliques de ce que laissèrent la famille de Moussa et la famille de Haroun. Les anges le porteront. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Cette partie de toutes ces choses qui furent construites sous l'ordre de Moussa alayhi salat wa salam est très détaillée dans le livre des Juifs et comprend entre autres des rites, des règles et la description de leurs offrandes. Ils disent également que le dôme existait avant qu'ils n'adorent le veau. Et cet événement eut lieu avant qu'ils n'arrivent à Beit el-Maqdis. Et que ce dôme était pour eux comme la Kaaba. Ils y priaient, s'orientaient et se rapprochaient de leur Seigneur auprès de ce dôme. Lorsque Moussa y pénétrait, il restait autour et la colonne de fumée descendait sur la porte. Il se prosternait alors pour Allah et Allah s'adressa alors à Moussa depuis cette colonne de fumée qui était une lumière. Allah s'adressa à Moussa, lui révélait des ordres et des interdictions alors que Moussa se tenait près du coffre entre les 2 anges. À la fin de la conversation, il informait les enfants d'Israël de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui avait révélé comme ordres et interdictions. Et lorsqu'il l'interrogeait sur une chose dont il n'avait rien reçu d'Allah, il venait à ce dôme, se tenait près du coffre entre les 2 anges et le jugement lui était révélé. Cela leur a permis à leur époque, c'est-à-dire l'utilisation de l'or, de la soie teintée et des ornements dans leur lieu d'adoration. Mais dans notre législation, cela est interdit et on nous a interdit d'orner et d'embellir les mosquées afin de ne pas déconcentrer les fidèles. Comme l'a dit Omar ibn al-Khattab radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu à la personne qu'il chargea des travaux d'agrandissement de la mosquée du prophète après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: construis pour les gens ce qui les protégera de la pluie et prends garde à ne pas peindre en rouge ou en jaune afin de ne pas tenter ou distraire les gens. De même, Ibn Abbas radiallahu tabaraka wa ta'ala anhuma a dit: vous allez les orner tout comme les juifs et les chrétiens ont orné leurs églises. Nous avons aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: on ne m'a pas ordonné d'orner les mosquées, comme a rendu Cheikh Al-Albani ce hadith authentique que vous pouvez trouver dans le Silsila Sahiha sous le numéro 1351. Et cette communauté ne ressemble pas aux communautés précédentes, car Allah tabaraka a réuni leurs pensées dans la prière pour s'orienter vers lui. Et il a préservé leurs regards et leurs pensées de tout ce qui pourrait les distraire de l'adoration qu'ils sont en train d'accomplir. Et la louange revient à Allah, tabaraka wa ta'ala. Il continue, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala, il dit: les enfants d'Israël transportaient avec eux ce dôme pendant leur errance. Ils priaient en sa direction. Leur imam était Moussa, alayhi salatu wa salam, et celui qui présentait les offrandes était Haroun. Lorsque Haroun et Moussa moururent tous deux, les enfants de Haroun prirent la succession de la tâche de leur père, et ce jusqu'à nos jours, c'est-à-dire les Lévites. Après Moussa, ce fut son disciple Yusha ibn Nun, dont nous avions parlé dans le cours précédent. Ce fut Yusha ibn Nun, alayhi salam, qui se chargea du fardeau de la prophétie. Ici, bien sûr, le terme de fardeau ici n'est pas péjoratif, mais il a plutôt une connotation de responsabilité, de lourdeur dans cette tâche. Et c'est Yusha ibn Nun qui les fit pénétrer à Beit al-Maqdis en Palestine. L'essentiel est que lorsqu'ils s'installèrent à Beit al-Maqdis, Yusha ibn Nun mit le dôme sur le rocher et il priait en sa direction. Et lorsqu'il disparut, c'est-à-dire ce dôme, ils continuèrent à prier dans sa direction, c'est-à-dire le rocher. Et c'est pourquoi cela fut la qibla des prophètes jusqu'à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète pria dans cette direction avant la hijra, lorsqu'il était à Mecca, tout en mettant la Kaaba entre lui et la qibla à Beit al-Maqdis. Lorsque le prophète émigra vers Médine, sallallahu alayhi wa sallam, on lui ordonna de prier en direction de Beit al-Maqdis, et c'est ce qu'il fit pendant presque 16, voire 17 mois. Puis, Allah tabaraka wa ta'ala institua la qibla vers la Kaaba à la Mecque, qui est la qibla de Ibrahim alayhi salatu wa salam. Ceci eut lieu au mois de Sha'ban, en l'an 2 de l'Hégire, à l'heure de la prière du Asr, ou certains ont dit à la prière du Dhuhr, comme nous l'avons rappelé en détail dans le tafsir, dans l'explication de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. Ce sont les versets 142 à 144 de sourate Al-Baqarah. Sourate numéro 2. Les simples d'esprit diront: qui les a détournés de la direction vers laquelle ils s'orientaient auparavant dans la prière? C'est-à-dire ici, les simples d'esprit renvoient aux Juifs de Médine qui, lorsque la Qibla fut déplacée et instituée vers la Kaaba, ils regardèrent les musulmans avec dédain et dirent, mais qui les a détournés de la direction vers laquelle ils s'orientaient auparavant? C'est-à-dire, qui les a détournés de la Qibla de Bayt al-Maqdis vers la Qibla de la Mecque, al-Kaaba? Dit, c'est à Allah qu'appartient l'Orient et l'Occident. Il guide qui il veut vers le droit chemin. Il guide qui il veut vers le droit chemin. Ainsi, nous avons fait de vous une communauté de juste milieu afin que vous soyez témoins contre les gens comme le messager sera témoin contre vous. Et nous n'avions établi la direction vers laquelle tu t'orientais que pour savoir qui suivrait le messager et qui se détournerait. C'était un changement difficile, sauf pour ceux qu'Allah a guidés. Et Allah ne veut pas vous faire perdre la récompense de vos prières, car Allah est clément et miséricordieux envers les hommes. Nous te voyons tourner le visage en tous sens vers le ciel. Nous t'orientons donc vers une direction qui te plaît. Tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Les Juifs de Médine n'avaient pas accepté que les musulmans puissent avoir une autre qibla que la leur. En changeant de qibla, cela affaiblissait la notoriété et la légitimité des Juifs à Médine. Tant que les musulmans priaient dans la direction dans laquelle priaient les Juifs se sentaient forts, se sentaient puissants, se sentaient légitimes. Dès lors que la Qibla fut changée vers Mecca, c'est à ce moment-là qu'ils ont regardé les musulmans avec dédain et ils ont dit ce qu'Allah tabaraka a rappelé ici, qui les a donc détournés de la direction vers laquelle ils s'orientaient auparavant, sous le ton du mépris et de la réprobation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dès les premiers temps, a toujours voulu prier vers la Kaaba. Voilà pourquoi, lorsqu'il était à Mecca, il plaçait entre lui et Bayt al-Maqdis la Kaaba. C'est-à-dire, il se mettait au sud, sur le flanc sud de la Kaaba, et il avait en ligne de mire la Kaaba et Bayt al-Maqdis. Puis lorsque le prophète a fait l'immigration à Médine, il lui était impossible, à ce moment-là, de faire ce qu'il faisait à Mecca, à savoir placer la Kaaba entre lui et la Qibla. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné, dans un premier temps, de se diriger vers Bayt al-Maqdis. Le prophète a prié en direction de Bayt al-Maqdis pendant 16 ou 17 mois. Mais, comme le souligne Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, nous te voyons tourner le visage en tous sens vers le ciel. C'est-à-dire que le prophète attendait un ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala qui lui ordonne de se diriger lors de la prière vers la Kaaba. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné cela et ceci fut légiféré pour l'ensemble des musulmans ila yaumil qiyamah jusqu'au jour du jugement. Nous parlerons la semaine prochaine de l'histoire de Qaroun comme cité dans la sourate Al-Qasas. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.